soir, le boom minier en RDC ne profite pas au trésor public. C'est la conclusion d'un rapport publié la semaine dernière à Kinshasa par 15 organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles. Selon ce rapport, les investisseurs dans ces secteurs gèrent seuls les investissements sans le contrôle du gouvernement congolais. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, nous recevons comme invité Mabolia Yenga, coordonnateur du programme d'appui au secteur des mines ProMine, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Monsieur Mabolia, bonsoir.
Bonsoir.
Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Il est l'un des signataires du rapport. Monsieur Mpararo, bonsoir.
Bonsoir.
Thierry Moukeleke, les journalistes à la radio Jedidia de Kambove au Katanga et communicateur social. Monsieur Moukeleke, les bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à mes co-débatteurs.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le boom minier en RDC ne profite pas au trésor public. Les investisseurs dans le secteur des mines en RDC gèrent quasiment seuls les investissements sans le contrôle du gouvernement congolais. C'est le cas des entreprises Tenke Fungurume Mining et Kamoto Copper Company. C'est ce que révèle un rapport préliminaire publié mardi dernier à Kinshasa par 15 organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles. Maître Georges Bokondou, chef de bureau Sarwa RDC, une des ONG qui ont participé à cette enquête, le dit au micro de Daniel Tambinzoni.
Des petites enquêtes que la société civile a fait, on découvre que ce sont seuls les investisseurs qui gèrent les investissements. Le gouvernement se fie aux déclarations des entreprises.
Il faut signaler ici que la société civile a mené ces enquêtes dans la société Tenke Fungurume Mining et Kamoto Copper Company KCC en sigle.
Parce que le gouvernement avait initié l'audit sur les deux compagnies. Le rapport provisoire de ces maisons d'audit a soulevé des questions qui ont attiré l'attention de la société civile, notamment les questions de la tenue des comptabilités en dehors du pays, les pièces comptables, surtout pour la partie qui concerne les investissements. Il ne faut pas oublier que dans les pays, les investissements miniers sont les plus importants et que si l'État ne tient pas compte, ne vérifie pas, c'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux investisseurs de connaître seuls, de gérer seuls et d'amortir seuls ces investissements. Comme objectif final, c'est d'amener l'État à comprendre que la gestion de ces secteurs, si on peut avoir des retombées, il faut nécessairement les gérer bien.
Ernest Mpararo, vous êtes président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Vous êtes l'un des signataires du rapport. Le boom minier en RDC ne profite pas au trésor public. Qu'est-ce qui justifie cette affirmation?
Oui, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Et comme vous le savez, mon collègue Georges Bokondou vient de le dire, le gouvernement avait diligenté un audit pour certifier les immobilisations des deux entreprises minières, des deux grandes entreprises minières, dont KCC et TFM. Les rapports provisoires de cet audit confirment que les deux sociétés, leurs pièces comptables ne se trouvent pas au Congo, comme l'exige la loi. Ils tiennent une comptabilité double, une comptabilité en anglais qu'ils envoient dans leur pays et dans leur pays d'origine, et une comptabilité en français qu'ils donnent à la DGI. Lorsque nous, au niveau de la société civile, nous avions reçu ces rapports, nous nous sommes rencontrés et nous avions dit non, pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas? Or, vous savez, lorsque les investisseurs viennent, ils investissent pour qu'ils puissent payer l'impôt sur les bénéfices et profits. C'est le premier impôt qui amène l'argent à la caisse de l'État. Cet impôt, avant de le payer, l'entreprise doit d'abord amortir tout son investissement. Or, les deux entreprises disent, lorsque TFM est arrivé, il a fait une étude de faisabilité, il a dit, pour développer mes trois phases afin de produire du cuivre, j'aurais besoin de 2,5 milliards de dollars. Or, jusqu'à la date d'aujourd'hui, à ce moment-ci, TFM a investi 3 milliards pour deux phases seulement. Ça pose des problèmes.
Et donc, il y a une surévaluation des investissements.
Effectivement. Pour KCC aussi, la même chose. À la date d'aujourd'hui, KCC dit, écoutez, moi j'ai investi 4 milliards. Et nous nous posons la question, ils le disent, ils le déclarent sur base de quoi? Or, jusqu'aujourd'hui, et le gouvernement, et les services d'assiette, personne n'a mené une contre-évaluation pour effectivement certifier les déclarations des entreprises minières. Et c'est ce qui fait que mon collègue Georges Bokoundou dit, écoutez, il y a un problème, les investisseurs gèrent eux-mêmes leurs propres investissements. Au niveau du gouvernement, au niveau des autorités, personne ne connaît, personne, jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît comment est-ce que qui a mené une fourchette, la clou, le marteau pour construire l'usine. Personne ne connaît le prix de l'usine. Le gouvernement est incapable de certifier ou de contre-évaluer ce que les investisseurs déclare.
Alors, c'est le gouvernement qui a diligenté cet audit, mais qui est arrivé aux mêmes conclusions que vous. Pourquoi, d'après vous, le gouvernement n'a pas agi en son temps?
Effectivement, c'est une faiblesse effectivement du gouvernement, parce que aujourd'hui, lorsque nous avions vu la direction générale de la DGI, ils nous ont répondu qu'ils sont en contentieux, sans toutefois nous dire la durée de ces contentieux-là, quelles sont les sanctions prévues. Ils n'ont rien dit. Ils nous ont dit seulement qu'ils sont en contentieux. Or, TFM a commencé à produire le premier cathode en 2009 plutôt. De 2009 jusqu'en 2014, ça fait 5 ans. Normalement, TFM devrait déjà commencer à payer l'impôt sur les bénéfices et profits. Vous vous souvenez en 2010, First Quantum, une entreprise canadienne qu'on a fermée ici au Congo, il a commencé à produire pendant 3-4 ans et il a récupéré tout son investissement, et en 2010, il a payé 54 millions de dollars sur l'impôt, un seul impôt. L'impôt sur les bénéfices et profits, il a payé 54 millions. Or, TFM, maintenant, ça fait 5 ans, ils n'ont jamais rien payé. Donc, le gouvernement a besoin de l'argent pour construire des routes, pour construire des camps militaires, pour construire des camps de policiers.
Pour concrétiser la révolution de
la modernité. Il trouvera l'argent. Ce n'est pas les Blancs qui viendront donner l'argent au gouvernement. Nous devons trouver l'argent sur place, en faisant pression à ces entreprises-là pour qu'ils puissent payer les impôts, et surtout l'impôt sur les profits et bénéfices, les bénéfices et profits. C'est le plus grand flux qui se trouve dans les secteurs miniers.
Et donc, quand vous dites qu'il y a une double comptabilité, vous concluez qu'il y a fausse déclaration.
Effectivement. D'ailleurs, je me demande comment est-ce que les gens de la DGI ils contrôlent ces deux entreprises, parce que leurs pièces ne sont pas ici. C'est par miracle, c'est par fiction. Bon, je ne sais pas, les économistes qui nous écoutent, ils peuvent nous dire comment est-ce qu'ils peuvent aller contrôler une entreprise dont les pièces comptables ne se trouvent pas sur place. Ils vont les contrôler sur base de quoi? Donc tout ce que les deux entreprises nous déclarent, ce sont des fausses déclarations, et les gouvernements doivent les redresser. Ils ne peuvent pas avoir peur, parce que ce sont des entreprises américaines ou des entreprises suisses ou quoi que ce soit. Non. Est-ce qu'une entreprise congolaise peut faire ça aux États-Unis?
Et dans le point 6 de votre rapport, en ce qui concerne le constat, vous dites que les 40% des recettes d'exportation telles que prévues dans le code minier ne sont pas non plus rétrocédées ou rapatriées.
Effectivement. Or, nous avions constaté, il y a la GECAMINE d'ailleurs. C'est la GECAMINE qui l'a alerté. Comme la GECAMINE est dans tous ses partenariats, la GECAMINE a pu constater qu'on est en train aussi de les flouer. Pourquoi? Pour avoir les royalties, ils doivent d'abord avoir et retirer tous ces amortissements. Or, selon le code minier, chaque entreprise doit rapatrier 40% des recettes brutes qu'il reçoit lorsqu'il vend le minerai. Or, jusqu'aujourd'hui, la Banque centrale peut vous témoigner, vous pouvez appeler la Banque centrale du Congo, parmi ces cas, parmi les 8 entreprises qui produisent, qui sont en production aujourd'hui, aucune entreprise n'a rapatrié 40%.
Mabolia Yenga, vous êtes coordonnateur du programme d'appui au secteur des mines, ProMine, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Vous avez suivi une série d'éléments, des griefs retenus contre le gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous répondez?
Merci, monsieur le journaliste. Quand il y a beaucoup d'éléments comme ça, il est difficile de répondre, parce qu'il a, en un temps record, essayé de ramasser plusieurs actions. Il existe aujourd'hui en RDC un souffle nouveau dans le secteur des mines.
C'est-à-dire?
Il a commencé en 2002 avec la volonté des autorités politiques de changer radicalement la façon dont a été géré ce secteur. Ça a été l'adoption du code et règlement minier. Et donc, avec ce nouveau code et règlement minier, l'État, le gouvernement, est devenu un acteur tout simplement régulateur. le rôle a été confié à l'entreprise. Aux entreprises, ici dans le cas, aux entreprises minières. Et la société civile a, si vous voulez, le rôle de vigilance, conscience du peuple. C'est comme ça que depuis 2002, nous cheminons dans le secteur minier. Et donc, le boom dont on parle n'est que la résultante d'une politique tracée, une volonté de faire profiter donc au peuple les retombées du secteur minier.
Au point qu'il devient difficile à maîtriser.
Non, c'est pas qu'il est difficile à maîtriser. Il est maîtrisé. Mais la maîtrise peut être degré 10, degré 20, degré 50.
Donc il tout y comme a degré 0.
Il n'y a pas degré zéro. S'il y avait degré zéro, on n'aurait pas fermé Fos Quantum. On n'aurait pas donné, par exemple, des pénalités à TFM pour des problèmes qu'ils ont eu à l'époque. Tout ça, ce sont des cas où on voit qu'il y a un contrôle. Il n'est peut-être pas suffisant, mais il y a un contrôle et il y a, disons, une certaine maîtrise de l'action du gouvernement dans le secteur minier. Il y a une volonté bien déclarée de savoir où on veut aller. Lorsqu'on parle des chiffres actuels, c'est quelque chose que nous maîtrisons. Lorsqu'on parle de litier, c'est une volonté manifeste de la part du gouvernement d'améliorer la transparence dans le circuit.
Alors là, concrètement, ce rapport fustige notamment deux entreprises, TFM et KCC. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à tous ces éléments, notamment la double comptabilité, le gouvernement ne contrôle rien, ne maîtrise rien, et même si on devrait aller plus loin, ça devrait en principe remettre en question le processus litier.
Mon ami a parlé justement lorsqu'ils ont demandé à la DGI, on leur a dit que c'était en contentieux. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu des accusations qui sont faites, ça doit suivre le cours. On va pas au niveau comme ça commencer à parler ceci, cela. Il y a des procédures qui sont bien établies et elles vont être suivies. Au demeurant, c'est l'État qui a demandé un audit. Donc l'État, dès le départ, a une intention manifeste de savoir, de tirer un peu au clair une certaine situation. Et donc lorsqu'on fait un audit, il y a tout le processus de contradiction, de volonté d'aller de l'avant et des mesures seront prises. C'est pour ça qu'on a fait l'audit.
Alors il y a cette surévaluation des investissements qui est aussi décriée à ce niveau-là. Quelle est votre réponse?
Je ne veux pas rentrer dans la surenchère. Effectivement, lorsque on déclare qu'on a fait 3 milliards, c'est basé sur certains éléments. Maintenant, il faut voir sur quelle est l'appréciation, la base de calcul, la référence qu'ils sont en train de faire. Donc là, pour moi, il est vraiment malaisé d'aller dire que c'est plus ou c'est moins. Mais dans tous les cas, vous pouvez voir des investissements qui sont visibles. Lorsque vous voyez TFM, ce sont de nouveaux investissements qui sont là bien précis. Ce sont des cathodes spot A, donc triple A comme on dit, 99.9. cathodes de maximum qui sont sortis. Lorsque vous voyez Kamoto, aujourd'hui, les usines tournent avec des équipements modernes par rapport à ce qui a été à l'époque de la Gécamines. Donc il y a des investissements qui sont faits. Maintenant, le montant exact, ça c'est matière aux spécialistes à trouver. Et l'État, normalement, a plus ou moins ou doit avoir la maîtrise de ce genre d'investissement.
Et les 40% de rétrocession qui ne sont pas rapatriés, ça du moins vous avez la réponse.
Quelle réponse voulez-vous que je dise? Ils doivent rapatrier 40%. Ça, c'est au niveau de la banque
centrale. C'est fait ou ce n'est pas fait?
D'après ce que je sais, c'est fait. C'est par la loi. Ils doivent appliquer la loi. Et on peut retrouver quand même lorsqu'on parle de 193 millions de redevances et tout ça, c'est quand même dans le compte du trésor. Il y a eu des redevances minières qui ont été payées. Donc, il y a de l'argent qui est rentré. Maintenant, le plus gros, comme il a dit, c'est l'impôt sur les bénéfices. Mais, pour le moment, les sociétés sont encore dans leur phase d'amortissement de l'investissement qu'ils ont fait. Mais si je me souviens bien, je crois que TFM a annoncé que fort probablement l'année prochaine, ils vont finalement commencer à payer des impôts sur base du chiffre d'affaires qu'ils feront.
Alors, au cas où il y aurait ces tripatouillages seraient confirmés ou ce flou autour des chiffres, Monsieur Mabolia, est-ce que cela ne remettrait pas en cause le rapport ITIE-RDC?
Non, point du tout. C'est votre affirmation. Vous dites que il y a des tripatouillages. Moi, je dis, il n'y a pas de tripatouillage.
J'ai parlé au conditionnel aussi.
Oui, moi aussi. Moi, je vous répondrai que je ne peux pas répondre une question au conditionnel comme ça. Parce que bon, ça, c'est des procès d'intention qui ne sont pas aisés de le faire, surtout que les personnes concernées ne sont pas là pour pouvoir répondre.
Thierry Mukelekele, vous êtes journaliste à la radio Jedidia de Kambov Katanga et communicateur social. Quelle analyse vous faites de ce rapport?
Bien, À leur juste valeur, les ONG, c'est dans leurs droits, mais néanmoins, le représentant du gouvernement, je ne sais pas s'il peut se rappeler, parce que la Constitution nous parle des impôts sur les sociétés qui doivent avoir jour par une loi. Est-ce que le représentant du gouvernement pourrait nous rappeler un peu cette loi-là sur ces impôts sur les sociétés? Et ensuite, quand vous lisez bien les rapports de nos amis des ONG, il y a une certaine raison dans leur manière de réfléchir. Peut-être qu'ils ont exagéré sur les chiffres. Mais pour moi, il y a une certaine vérité dans ce qu'ils sont en train de dire. Parce que dites-vous, quand vous êtes sur la route même principale qui est réhabilitée il n'y a pas une année totalement, vous voyez la misère tout autour de cette grande société, entre guillemets, qui est la TFM. C'est comme ça que je rejoins ceux-là qui pensent que le gouvernement ne bénéficie pas de ces grandes sociétés. C'est-à-dire, quand vous êtes sur cette route-là, non loin même de la société, c'est la misère que vous êtes en train de lire tout au long de la route et à côté de la société. C'est-à-dire, si l'État lui-même est incapable de bénéficier de ces grandes sociétés, la population voisine, elle est pas mal, et vous comprendrez pourquoi les créseurs artisanaux vont toujours tenter de violer les installations pour essayer de voler les minerais autrefois qu'ils étaient en train d'exploiter. C'est comme ça que je voudrais que le représentant du gouvernement nous précise un peu le rapport entre les sociétés et l'État en ce qui concerne le social des villageois de Fongouroumé, de Tinké, parce que entre Tinké et Fongouroumé, c'est à peine 70 kilomètres. Quel est ce rapport social entre la société, le gouvernement et les villageois?
Alors, Thierry Mukelekele, vous êtes à Kambo via beaucoup de mining, vous avez TFM à côté, et donc vous dites que juste à côté de la société, c'est la misère, mais Maboli Ayenga disait ici que les investissements sont visibles. Concrètement, essayez de nous décrire ce que vous voyez.
Bien. Fongouroumé, d'abord, c'est un village, autrefois, qui avait deux sociétés elles. Mais des années plus tard, avec une grande société, Tinké Fongouroumé, comme vous l'entendez à Kinshasa, c'est pratiquement l'image de Kinshasa, vers Kinshasa, là. Donc,
la périphérie de
loin
Kinshasa.
De la ville. Oui, la périphérie, voyez-vous. Et vous avez encore des cases non loin de cette grande société. Et le camp des travailleurs de Tinké Fongouroumé, ça ne répond même pas aux critères des camps Gécamines abandonnés il y a 20 ans ou 30 ans, ou même des cadres de Gécamines, par exemple, à Kambové, dans la cité où se trouve notre chaîne de radio et de télévision. Quoique ces maisons-là, ces meurent déjà, mais vous n'allez pas les comparer avec les maisons des cadres de cette grande société qui est tout autre que Fongouroumé. Et quand vous êtes à Kambové, laissez-moi vous dire que Somika, qui est l'une des grandes sociétés sur place à Kambové, est dans les installations de la Gécamine et occupe les duplex, on peut appeler des appartements qui appartenaient à la Gécamine. Je n'ai pas vu Somika construire des maisons propres à elle et même une école propre à la société Somika ou un autre propre à la société Somika. Ce qui veut dire que ces soi-disant grandes sociétés aujourd'hui qu'on nous présente ne répondent pas aux critères constitutionnels. Ce que le gouvernement demande à ces sociétés pendant les 5 ans, Tinké Fongouroumé n'a pas fait. C'est pourquoi aujourd'hui, la police nationale congolaise tue des populations civiles qui se recherchent. Dites-vous que Tinké Fongouroumé est sur près de 110 kilomètres, entre 110 kilomètres et 120 kilomètres. C'est le territoire de Tinkefungurume et les villages sont dans le territoire de Tinkefungurume.
Alors, Thierry Mukelekele.
Oui.
Voilà. Tout à l'heure, Mabolia Yenga disait qu'il y a un souffle nouveau dans les mines en RDC depuis 2002. En un mot, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Ah ben, je ne sais pas de quel côté lui il voit les souffles nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, à Kambove, rien que dans mon territoire, nous sommes au-delà de 250 000 trésors qui sont en train d'errer ça et là.
Merci.
Et quand vous prenez les trésors de Fungurume, vous prenez les trésors de Lubumbashi qu'on vient de débarquer à Lupoto il n'y a pas longtemps, 20 000 encore. Alors moi, je ne vois pas dans quoi est-ce que lui, il donne ces prétentions-là que ça ne reflète pas ce que Kinshasa vous voyez.
Merci,
si vous
Thierry Mukelekele.
Vous allez vivre ce que nous sommes là.
Merci Thierry Mukelekele. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Ernest Mpararo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Pepe Lisungi Botomoito, je vous appelle depuis la province orientale à Kisangani. Faire ce genre de déclaration après plusieurs mois de la mise en place de la brigade antifraude au Congo et critiquer le gouvernement dans ce secteur au moment où il y a encore des rébellions presque partout à l'Est, je trouve ces rapports de trop et politisés. Et si cela est vrai, pourquoi se limiter seulement aux déclarations? Pensez-vous que les déclarations et rapports peuvent changer la gestion de ces pays par nos gouvernants?
Réaction à Ernest Mpararo, ce rapport ne serait-il pas politisé?
Effectivement, l'ami de Kisangani doit être calme, étant donné que pour combattre la guerre, pour qu'on puisse terminer la guerre, l'État, le gouvernement doit avoir l'argent. Or, d'où viendra l'argent si les entreprises qui devraient payer cet argent à l'État sont en train de frauder et de tricher et de mentir? C'est ça la question. Et en ce qui concerne la brigade antifraude, effectivement, c'est une brigade qui avait été dissoute sous le ministre Luzolo. Elle a été réhabilitée, mais je pense qu'ils n'ont pas, la brigade n'a pas des moyens de son action. Ils n'ont même pas de budget. Ils n'ont même pas, moi je connais l'inspecteur qui est en charge de cette brigade. Il se plaint chaque jour qu'il n'a même pas de frais d'émission pour aller investiguer sur des cas de fraude par-ci par-là. Il n'a même pas. Donc, notre ami de Kisangani doit savoir que le gouvernement a besoin de moyens pour payer les militaires, pour construire des camps, pour acheter des matériels, en fait, de combattre les FDLR et les ALRA. Et tout cet argent ne viendra pas des FMI, ne viendra pas de l'Union européenne, ne viendra pas de la Banque mondiale, mais cet argent viendra de nos ressources, de nos coltans, de notre or, de notre diamant. Et si nous ne gérons pas notre diamant, notre cuivre, notre coltan, comment est-ce que le gouvernement aura l'argent pour passer à l'action de combattre les milices?
Alors, on n'a ni TFM ni KCC dans cette émission pour qu'ils se défendent, mais dans votre rapport au point 7, vous dites que vous leur avez posé la question. Quelle était leur réponse?
Effectivement, messieurs les journalistes, je peux vous faire rire aujourd'hui. Pour TFM, ils nous ont répondu que lorsqu'ils construisaient les îles, c'était à ce moment-là qu'il y avait la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que les sociétés qui construisent les stades en Afrique d'ici, ce sont les mêmes sociétés qui construisent les usines minières? Vous voyez comment est-ce que les gens de TFM se comportent? Ils se comportent comme s'ils étaient des conquistateurs, comme des colonialistes, étant donné qu'ils sont en face, effectivement, des hommes politiques, donc des institutions faibles. Nous avons des institutions. C'est comme ça que nous lançons les appels au gouvernement. Nous allons les soutenir. S'il faut aller aux États-Unis faire des actions, nous irons aux États-Unis faire des actions pour que TFM respecte les lois, étant donné que aucune société congolaise ne peut faire ce que TFM fait ici au Congo.
Les régies financières, dites-vous, dans le rapport, vous ont affirmé qu'il y a un contentieux autour de cette affaire, comme a dit Mabolia Yenga. Pourquoi ne pas laisser les choses suivre le cours normal et attendre les résultats?
Vous savez, le fait déjà qu'il y ait un premier rapport, il y ait déjà une infraction par rapport à la loi, on doit d'abord sanctionner.
Le gouvernement n'a-t-il pas raison ou n'a-t-il pas besoin de voir plus clair avant de sanctionner?
C'est le même gouvernement. Le gouvernement a demandé à des experts. Les experts ont produit un rapport. Et le gouvernement doit se tenir par rapport à ces rapports. Lorsqu'il y a une infraction, vous suivez par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par rapport aux banques, par rapport aux offices fiscales. Lorsque vous êtes déjà en dehors de la loi, on vous sanctionne, il n'y a pas à discuter. Donc, que ce soit la GECAMINE,
que ce soit le gouvernement. Et nous-mêmes, nous avions posé des questions, nous avons fait des recherches, nous avions demandé à plusieurs experts. Ils nous ont confirmé que TFM, la comptabilité n'est pas, les pièces ne sont pas ici. Et si les pièces ne sont pas là, s'ils importent une machine de 5 millions, qu'est-ce qui nous dit que la même machine coûte 5 millions? Parce qu'il n'y a pas de facture, il n'y a rien.
Alors, je posais la question à Mabolia Yenga tout à l'heure concernant le rapport ITIE que la RDC produit. Peut-on faire foi à ce rapport?
Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, à ce qui me concerne, moi personnellement, je ne fais pas foi, étant donné qu'il y a un des critères de l'ITIE qui dit que les audits faits par les entreprises minières doivent respecter les normes internationales. Or, ceux qui auditent ces entreprises minières, que ce soit PricewaterhouseCoopers, que ce soit Ernst & Young, que ce soit Deloitte, ils mentent. D'ailleurs, les gouvernements doivent d'ailleurs retirer leur licence d'exploitation ici.
Vous faites sourire, Mabolia Yenga.
On doit fermer tous ces bureaux d'audit, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, parce qu'ils sont en train de certifier de fausses déclarations. C'est une infraction pénale même.
Voilà, Mabolia Yenga, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Château Ikilima à partir de Bukavu en province du Sud Kivu. Nous ne pouvons pas dire que cette situation est méconnue par le gouvernement, car bien qu'elle ne bénéficie pas au trésor public, ce boom minier profite quand même aux personnes physiques qui sont à la tête de l'État. La conséquence est que ce sont les investisseurs qui interviennent dans ce secteur qui en sortent ragaillardis, car entretenant des relations de copinage entre guillemets avec ceux qui, en principe, devraient être leurs contrôleurs, sacrifiant ainsi des générations futures. Voilà ce qui tue la RDC dans presque tous les domaines.
Réaction Mabolia Yenga.
Notre ami de Bukavu donc dit qu'il y a copinage, ça ne profite pas. Encore une fois, le secteur minier aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'emploie personne. Il emploie quand même beaucoup de monde. N'ayons pas la mémoire courte. À l'époque de la Gécamines, il y avait un grand nombre. La gestion dont on a fait avec la Gécamines, elle est tombée aujourd'hui. Ok? Elle est en train d'essayer de se relever. Mais le secteur minier aujourd'hui, il emploie quand même beaucoup de monde directement et indirectement. Donc il y a quand même une avancée.
Même s'il y a une certaine opacité.
Il n'y a pas d'opacité. D'abord, les sociétés sont des sociétés cotées en bourse. Les sociétés cotées en bourse prennent l'argent de quelqu'un. Elles se méfient des problèmes parce que les actions peuvent diminuer. Le prix de la valeur de leurs actions peuvent diminuer. Donc elles respectent souvent des standards qui sont quand même internationaux. Maintenant, s'il y a des faiblesses, et faiblesses il y en a peut-être du côté du gouvernement, nous sommes dans un processus de résilience. Nous sommes dans un processus, nous montons en puissance en RDC. Écoutez, la RDC il y a 10 ans, monsieur le journaliste, est-ce la même chose qu'aujourd'hui? Même le secteur minier aujourd'hui, on parle déjà de 1 million. Qu'on ne maîtrise pas tous les flux. Mais au moins, on sait déjà qu'il y a 1 million. Donc, nous sommes en train de progresser. L'ITIE nous a permis, hein, l'année passée, de voir combien à peu près le secteur pouvait gérer. C'est déjà des avancées. On est en train d'aller progressivement vers une meilleure situation de maîtrise. Aujourd'hui, l'ami parle il est à Bukavu. Donc, on peut parler de la société qui est là-bas, Banro, qui a maintenant commencé à faire de l'exploitation industrielle. Dans une contrée où tout a été une production artisanale. Mais ça a donné quoi? Donc il y a maintenant une production industrielle qui s'installe, il y a des revenus qui commencent à être générés, et progressivement l'État va monter en puissance parce que après la fin des amortissements, les revenus vont commencer à augmenter.
Héritier, un internaute qui nous écrit depuis Kinshasa, dit le Sénat a fait un rapport après enquête sur la gestion du secteur minier en RDC. Jusqu'à ce jour, on n'en tient jamais compte alors que ce sont des milliers de dollars qui échappent au trésor public. N'est-ce pas là un manque de volonté de la part du pouvoir en place de mettre de l'ordre dans ces secteurs?
Encore une fois, beaucoup d'actions sont menées. Je crois que nous tenons compte et on tient au niveau du gouvernement de tous les rapports qui sont faits, de toutes les situations de la société civile quand elle décrit des situations. Je crois qu'il y a des améliorations, encore une fois, qui sont faites. L'ITIE est un exemple. Le projet Promine est un exemple. Le climat des affaires Doing Business sont des exemples. Le code de bonne conduite pour les fonctionnaires et tout ça. Il y a beaucoup d'actions que le gouvernement prend pour améliorer la transparence dans le secteur minier et la transparence en fait en général pour attirer des investissements, pour produire des investissements locaux. Donc il y a des actions qui sont prises.
Alors tout à l'heure Thierry Moukelekele vous posait la question de savoir que dit la loi au sujet du social des villageois, notamment dans le rapport entre ces entreprises minières et ce qu'elles doivent faire pour les villageois en termes de cahier des charges. Comment ça se passe?
Le code minier est assez clair là-dessus. Mais il n'avait pas été jusqu'à bien spécifier exactement à quoi doivent s'en tenir les entreprises minières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que nous parlons de plus en plus de la responsabilité sociale des entreprises. C'est un partenariat, une conception qu'on veut mettre en place pour savoir exactement que doit faire l'entreprise minière. Une entreprise minière, lorsqu'elle vient, c'est pour produire. C'est ça son rôle. Elle produit, elle fait fructifier son investissement. Mais maintenant, quelles sont les activités qu'elle doit produire à la société et dans les communautés locales et au niveau du gouvernement. Donc ça, c'est tout un problème, c'est de définir le cadre. Et je crois que aujourd'hui, mon ami Ernest ne me contredira pas, qu'il y a beaucoup d'accent qui est mis sur le problème de la société, de la responsabilité sociétale. Et par exemple, si on parle de la province du Katanga, il y a par exemple l'IDAC, l'investissement durable au Katanga, qui veut justement essayer de fouiller et de contrôler et de vérifier que les investissements qui sont faits rapportent quand même quelque chose à la population.
Vous parlez du Katanga, il y a un autre internaute, Jean-Luc Mukutu, qui nous écrit de Lubumbashi, qui dit « Seul avec la Gécamine, la part du secteur minier était énorme dans le budget de l'État, mais aujourd'hui, malgré la multiplicité des mining, surtout ici au Katanga, on constate que la part de ce secteur dans le budget devient minime. »
Encore une fois, ne tombons jamais dans le travers de dire que de la situation de la Gécamine. Elle est où aujourd'hui la Gécamine dont on est en train de parler? Donc il faut tenir compte du contexte sociopolitique. La Gécamine a travaillé dans un contexte d'après-indépendance où, il était bon d'avoir des entreprises. L'État voulait recouvrer son emprise et nationaliser. Mais on a vu dans la plupart des pays du monde où est-ce que ça nous a mené. Ensuite, on a le contexte légal. Je vous ai dit que en 2002, on a voulu donner un souffle nouveau. On a donné à l'entreprise individuelle l'action à mener. C'est elle qui conduit. L'État joue son rôle régulateur. Mais un investissement, c'est des millions. Il faut retirer profit. Il faut amortir l'investissement qui est fait. Ça prend du temps. Mais lorsque c'est passé, après, ça commence à générer des bénéfices. Lorsque vous voyez la Gécamine, c'est pas aujourd'hui, c'est 100 ans d'histoire. Vous, Tenke Fungurume, ce n'est que maintenant. Beaucoup de sociétés, ce n'est que maintenant. Donc, projetons-nous, voyons les choses calmement, attirons des investisseurs, créons la richesse pour que nous-mêmes, demain, nous puissions être des actionnaires des sociétés comme ça. Il faut créer la richesse, il faut travailler, et je suis d'accord qu'il faut améliorer le contrôle et tout ça.
Thierry Moukelekele, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu au Sud Kivu.
Excellent, à Bukavu, province du Sud Kivu. Je voudrais dire que si les multinationales ne contribuent pas à notre pays, donc c'est la faiblesse du code minier ou soit c'est la faiblesse de ceux qui sont censés d'appliquer ce code minier. Donc, il faut qu'on puisse revoir le code minier et qu'on puisse appliquer ce code minier. Et c'est ce qui peut donner au moins une valeur à notre pays.
Là, on est déjà dans les solutions, Thierry Moukelekele. Faut-il absolument revoir le code minier?
Oui, mais je pense que il faut revoir ce code minier. Et de quelle manière faudra-t-il revoir le code minier? Pas à Kinshasa. Il faut être sur le terrain pour palper les réalités des terrains, enfin revoir ce code minier et l'adapter à ces réalités qu'on aura vécues. Parce que chaque fois à Kinshasa, on envoie des textes qui ne s'adaptent pas aux réalités. Laissez-moi vous dire que depuis 2006 que nous avons commencé la démocratie, nous on pensait que comme Kambove, nous sommes l'un des coins qui nourrit facilement l'assiette fiscale en ce qui concerne les sociétés minières qui se retrouvent ici, ne fût-ce que la route Likasi-Kambove pouvait être réhabilitée. Non, ça dit que le minier ne protège même pas le territoire. Et quelqu'un quitte la Chine avec une cartographie, il vient avec un document de Kinshasa, quand il descend au bureau du territoire à Cambove, il donne à l'administrateur des territoires des précisions là où il doit faire sa culture minière. Donc nous subissons. Et l'effet de subir ne profite pas aux populations locales. Dites-vous que Cambove est le deuxième territoire, je crois après un territoire dans le Bas-Congo, sur le plan superficie. Et nous avons une densité de plus de 200 000 habitants. Et dans tout ça, nous ne voyons rien du tout. Et c'est nous qui régorgeons l'uranium dans notre territoire. Et quand vous venez de ce territoire, je vous assure, la route qui quitte Cambove vers Kakanda, c'est au moins pendant cette saison que nous pouvons bien rouler sur cette route-là. Ça dit que tout ce que le représentant du gouvernement est en train de parler, c'est bien beau quand on est à Kinshasa, des beaux boulevards, des bureaux climatisés. Mais quand vous venez chez nous, ce sont d'autres réalités. D'où, dans ces solutions, nous pensons que la révisitation de ce code minier est très nécessaire, mais venez, nous allons vous orienter et vous donner les réalités des terrains afin que les lois s'adaptent à nos réalités. Je vous dis aujourd'hui que à Tenke-Fungurume, ils ont leur aéroport, pas un aérodrome, parce qu'un gros avion peut descendre à Tenke-Fungurume. Donc nous ne connaissons même pas les avions qui descendent là-bas, qu'est-ce qu'ils amènent, et les avions qui repartent, qu'est-ce qu'ils prennent à partir de Fungurume. Il y a des réalités, quand vous êtes sur terrain, nous allons vous les présenter, et c'est sur base de ça que les lois peuvent protéger les populations.
Thierry Moukelkele?
Oui.
Voilà, il y a Papi Combié qui est géologue et il nous écrit de Dubaï. Il dit que nos autorités prennent pour exemple le modèle économique des pays du Golfe. Ils ont su investir et attirer des gros investissements grâce à la manne pétrolière. Et aujourd'hui, ils ne dépendent que trop peu du pétrole. À part la révision du code minier, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour vous en guise de solution?
Il faudrait qu'il y ait un contrôle sévère. Je vous donne par exemple la société qu'on appelle Somica. Le patron que je connaissais il y a près de 8 ans, ce n'est pas le même patron qu'il y a à Somica. Ça dit qu'il y a de ces Indiens-là qui s'échangent dans la même société et on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à contrôler la fiscalité et tout ce que nous sommes en train de nous plaindre aujourd'hui sur les impôts. Ça dit qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle au préalable. Il y a des sociétés qui s'échangent de noms. C'était KCC, c'est devenu KCC. Nous sommes en train de vivre des choses que le gouvernement lui-même est en train d'entretenir.
Merci.
Et puis, je chute par là, le mercantilisme de nos autorités. Principalement, nous trouvons certaines autorités, que ce soit des ministres ou, je sais pas, des parlementaires, derrière justement ces sociétés. Et les inspecteurs n'arrivent pas à bien faire le travail sur terrain parce qu'il y a un coup de fil de Kinshasa qui demandera à cet inspecteur de ne pas entrer dans une société X ou Y.
Alors,
et tout ça,
Thierry,
ça bloque la réalité.
Thierry Moukelkele, je vous demande aussi de conclure parce qu'il nous reste déjà moins de 5 minutes pour terminer l'émission.
Nous comprenons le souci du gouvernement. Mais il faudrait que ce souci du gouvernement adhère au souci du peuple congolais. Le rapport est peut-être trop salé, il faut mettre de l'eau pour que ça ne soit pas salé,
merci.
Mais c'est un rapport qui est assez orienté.
Merci Thierry Moukelekele. Ernest Mpararo, il y a des recommandations dans ce rapport, quelles sont les plus importantes?
Effectivement, la première recommandation est qu'on doit renforcer les contrôles, les audits, on doit sanctionner tous les auditeurs, Price White, Ernest Ndiang, Deloitte, ils doivent être sanctionnés, ils ont menti. Deuxième, les services de l'État doivent collaborer. Imaginez-vous, le ministère des Finances diligente un audit, le ministère des Mines ne connaît même pas. Nous étions au ministère des Mines, on nous a dit qu'ils n'ont même pas les rapports d'audit. Les services, la DGDA, qui est connecté par Sidonia, ne donne pas des informations aux autres services d'assiette. à la DGRAD, à la DGI, et même si la DGI a ces informations-là, qu'est-ce qu'ils en font? Donc, il y a tout un grand travail à faire, un travail de collaboration, de confiance. Les ministres doivent se voir, doivent échanger des informations, parce que ce sont des entreprises qui doivent générer beaucoup, beaucoup de recettes dans les caisses de l'État. Or, si on continue dans le même système, nos mines, notre or, notre cuivre, notre ami qui est à Cambo vient de dire qu'ils n'ont pas de route. Vous savez pourquoi? Parce que la redevance minière n'est pas rétrocédée là-bas. Et pourquoi la redevance? Elle est tellement minime, étant donné qu'il y a des services étatiques qui créent leurs propres taxes en fait de s'enrichir. Lorsque vous partez à Kasumbalesa, par exemple, vous verrez, il y a la division des mines à la frontière. Il y a CSC à la frontière. Il y a ANER à la frontière. Il y a commerce extérieur à la frontière. Il y a police des mines à la frontière. Ils font quoi là-bas? Ils sont en train de tracasser tous ceux qui exportent. Et lorsque les entreprises payent X, 1 dollar, 2 dollars, ils ne le payent pas caritativement, ils le payent et ils vont le déduire à la redevance minière. C'est comme ça que la redevance minière qui devrait arriver à Cambov n'arrive plus. Et lorsque ça arrive à vraiment à une quantité minime.
Merci beaucoup Ernest Ampararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Mabouli Ayenga, la révision du code minier, où est-ce qu'on en est?
Nous sommes presque à la fin. Bientôt, je crois que Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines transmettra l'avant-projet au Parlement.
Ça a quand même pris trop de temps.
Mais vaut mieux prendre le temps qu'il faut pour que ce soit un bon code révisé que plutôt qu'on se hâte et puis après qu'on ait des problèmes. Mon ami Pararo a eu tout le temps de participer dans les différents réunions que nous avons eues pour le code minier. Et donc, je crois que maintenant, il dira ou il ne me dira pas, mais bon, on a pris le temps nécessaire pour avoir un code qui réponde aux aspirations, notamment du monsieur qui a parlé à la base, quand il dit que il faut venir voir ce qui se passe. La société civile en est leur interprète.
Alors, concrètement, qu'est-ce qui pourrait apporter de neuf ce code révisé, quand il le sera?
Il y a beaucoup d'innovations qui sont dans le code. Hein. D'abord, sur le plan légal, il faut tenir compte de la Constitution. Le code a été fait bien avant la Constitution. La Constitution est venue par après, donc il faut l'adapter. Sur le plan de l'exploitation artisanale, il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites parce qu'il faut tenir compte de l'artisan minier et notamment essayer de le regrouper en coopérative pour mieux protéger ses lois. Et sur le plan de la fiscalité, il y a des propositions qui sont faites pour pouvoir améliorer l'assiette financière de la RDC.
Alors peut-on alors espérer que finalement le secteur minier apportera un peu plus au budget de l'État?
On l'espère. Avec les projections qu'on a faites, si on arrive à avoir plus ou moins les taux qui sont demandés, il y a déjà une incidence immédiate. Par exemple, je crois que si tout le monde est d'accord, c'est que l'impôt sur le bénéfice des sociétés se fera maintenant avant les charges. Donc il y a déjà une sacrée différence.
Et donc il faut espérer.
Il faut espérer. Je suis sûr que d'ici quelques années, vous verrez. Depuis 10 ans, monsieur le journaliste, 2002, 2014, vous voyez s'il n'y a pas eu une différence. Il y a eu une différence.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Je recevais Mabouli Ayenga, coordonnateur du programme d'appui au secteur des mines ProMine, structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Ernest Ampararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, et également Thierry Mukelekele, journaliste à la radio Djedidia de Kambov au Katanga et communicateur social. Merci à Guy Maté, Guy Manzangu, Kelin Kouté, Pele Kipela Mondo qui m'ont aidé à préparer et à vous présenter cette émission. Alain Hirung Mouchinge, c'est moi, je vous l'ai présenté et je l'ai coordonné. Bonne suite et programme sur la radio de la paix. Au revoir.